Et nous, on va évoquer une autre politique, la politique migratoire du gouvernement Macron. 8h22 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, alors que le gouvernement présente son projet de loi sur l'immigration, c'est une journée spéciale sur France Culture avec La Croix, le quotidien La Croix, et ma consoeur et camarade Isabelle de Golemin. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et nous sommes en compagnie de Stephen Smith, professeur d'études africaines, journaliste spécialisé sur l'Afrique. Vous publiez La Ruée vers l'Europe aux éditions Grasset. À côté de vous, Pierre Verluis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique de l'Université de Paris 4, fondateur du premier site géopolitique francophone DiploWeb et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il y a donc une volonté d'organiser autrement l'immigration dans ce projet de loi. Qu'en pensez-vous, Pierre Verluis ? Est-il aujourd'hui adapté à la situation démographique mondiale ?
Il s'agit d'un projet de loi français pour la France. Le texte n'est pas encore totalement connu et il n'est pas question de considérer l'ensemble de la situation mondiale. Là, le Parlement français ne se prononce pas sur le monde, il se prononce sur ce qui se passe en France. Alors, néanmoins, moi je ne vais pas me prononcer sur un sujet qui n'est pas, un texte qui n'est pas validé, mais le contexte fort est le suivant, c'est que la France s'inscrit en un espace, une dynamique qui est l'Europe. Cette Europe est marquée depuis des décennies par un hiver démographique, par un vieillissement, par le dépeuplement de certaines régions. Et sur le segment 2000-2008, les 4/5 de l'accroissement total de la population de l'Union européenne venaient déjà d'émigration. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'émigrants sans oser le dire, puisqu'on n'est pas capable de faire suffisamment d'enfants pour se renouveler. Et de l'autre côté, on a un continent africain et des régions comme le Moyen-Orient qui sont en crise, qui fournissent des migrants. Et la question intéressante, qui est passée sous le tapis, c'est que depuis 2 ans, en 2015 et 2016, c'est la totalité de l'accroissement total de la population de l'Union européenne qui vient de l'accroissement migratoire. Autrement dit, on est entièrement dépendant des migrants pour avoir une population de l'UE qui augmente encore.
Pierre Verluis, vous êtes un universitaire, vous êtes donc quelqu'un de prudent, mais il y a des chiffres qui sont évoqués par Stephen Smith dans son livre, notamment 500 millions d'Européens aujourd'hui, 1,25 milliard d'Africains, donc 40% de moins de 15 ans. Et alors en 2050, si les projections démographiques sont effectives, 450 millions d'Européens avec 2,5 milliards d'Africains. Quand je vous posais la question de savoir si le projet de loi sur l'immigration était adapté, je voulais savoir si, en réfléchissant à savoir si on allait accueillir aujourd'hui 25 000 immigrés ou bien 50 000, on était sur des proportions qui étaient en rapport avec la pression démographique.
La pression démographique est importante, elle sera de plus en plus importante. La question, c'est ce qu'on en fait déjà, ce qu'on fait des migrants qui depuis 4 décennies sont installés. Est-ce que nous sommes vraiment à la hauteur de nos engagements? C'est pas évident. Est-ce qu'on est en mesure d'en intégrer davantage et comment? Ça peut se débattre. Ce qui est certain, c'est que on est en droit de maîtriser qui est sur son territoire.
Isabelle de Golemin.
Oui, moi, il y a une question que je me pose souvent et en vous écoutant et en lisant votre livre, Monsieur Smith, je me suis demandé si finalement, on voit bien que bon, l'Europe a quelque part intérêt à avoir des migrants, elle a besoin de ces migrants, mais du côté de l'Afrique, comment ça se passe? Est-ce qu'on n'est pas en train de vider cette Afrique subsaharienne de ses meilleurs éléments, entre guillemets? Est-ce que ce ne sont pas, vous le dites bien, les gens les plus éduqués, les gens les plus mobiles qui viennent? Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mieux organiser cette migration pour que aussi ça profite à l'Afrique?
Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est un désastre pour l'Afrique, parce que ce sont les gens qui sortent la tête de l'eau, ce ne sont pas les plus pauvres qui partent. Il faut avoir une certaine vision du monde pour partir. Il faut aussi avoir des moyens, 2 000-3 000 euros pour voyager parfois pendant une année, travailler. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc ce sont les rares qui pourraient s'occuper de la gestion de la cité en Afrique, qui ont le temps et l'esprit pour le faire, qui partent, qui démoralisent les autres. Nous voyons souvent le migrant comme cet être héroïque qu'il est à affronter des obstacles, mais au départ, il y a un défaitisme, il y a un manque d'espoir, et on part et on déchire un contrat de citoyen. citoyenneté, ça aussi il faut le voir, c'est démoralisant pour ceux qui restent. Et je ne suis pas d'accord du tout sur la contrainte démographique pour l'Europe vieillissante d'importer des bras et des cerveaux. D'abord, il n'y a pas de bras et des cerveaux qui arrivent, ce sont de vraies personnes qui arrivent, il faut les intégrer, ça a un coût social. Et d'autre part, on a totalement déconnecté du fait qu'on a gagné en longévité et que la robotisation fait maigrir en quelque sorte le marché du travail. Donc on est en train de nous vendre une contrainte démographique qui n'est pas vraie. On peut accepter l'immigration pour de bonnes raisons, mais pas pour remplacer des Européens vieillissants. C'est une mauvaise raison.
Stephen Smith, justement, vous avez prononcé une phrase importante. Vous avez dit 2 à 3 000 euros pour venir en Europe. Et ce que l'on est en train de constater, alors pas forcément vis-à-vis de l'Afrique, mais vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Érythrée, bref, d'autres pays, on est en train de se rendre compte que finalement, il y a aujourd'hui des filières d'immigration clandestine, des passeurs qui ont aujourd'hui un business qui est un business rentable, avec un développement finalement plutôt récent. Pourquoi ?
Oui, parce qu'il y a toute une économie de l'ombre qui s'est mise en place, parfois en remplaçant carrément le tourisme, c'est pas macabre de le dire, mais tous les passeurs, c'était des gens qui auparavant, par exemple dans le Ténéré, autour d'Agadez, qui s'occupaient des touristes. Aujourd'hui, ils s'occupent d'un trafic humain. L'idée même de l'asile a explosé. Dans les années 80, il y avait 80 000 demandeurs d'asile à l'échelle européenne. En 2016, il y avait 1,2 million. L'idée aussi du réfugié, c'est totalement du réfugié dans les camps, c'est totalement vidé de substance, puisqu'il n'y a plus que 2% des réfugiés pour qui on trouve une solution permanente, soit qu'ils puissent revenir dans leur pays, ou qu'ils puissent s'installer dans un autre pays, le pays d'accueil ou un pays tiers. Donc, toutes ces catégories, qui sont aussi des catégories avec des droits, des catégories légales, ont explosé et nous faisons comme s'il y avait encore un vrai demandeur d'asile, comme s'il y avait encore un réfugié dont on s'occupait vraiment autrement que de le mettre de camp en camp. Et tout ça, c'est fini. Je ne pense pas qu'on puisse discuter de l'immigration en France en pensant que c'est par rapport à nos besoins qu'on va définir la migration. Il faut mondialiser la pensée sur l'immigration. Il faut savoir ce qui se passe dans les pays d'origine et voir la pression migratoire là où, d'où elle vient, et n'ont pas pensé qu'on puisse lever et baisser la barrière en fonction de nos volontés et de nos besoins.
Votre avis à ce sujet, Pierre Verluise ?
Moi, j'ai pas d'avis, je pose des faits simplement. Sur la question entre vieillissement et migration, je suis tout à fait d'accord avec M. Smith pour dire qu'il ne faut pas avoir une vision instrumentale des faits, que les êtres humains ne sont pas des choses qu'on déplace comme ça au gré des besoins, des services et des entreprises. C'est pas mon sujet. Simplement, j'attire l'attention quand même sur le fait que le vieillissement de l'Union européenne, c'est une réalité. Entre 1994 et 2014, l'âge médian de la population de l'UE a augmenté de 6 ans, passant de 36,2 ans à 42,2 ans. L'UE est la région du monde, je dis région, le plus vieillie, ou la plus vieillie. Le Japon est le pays le plus vieilli. Et la référence au Japon n'est pas un hasard. Le vieillissement du Japon, robot ou pas robot, a un effet sur le fait que le Japon a perdu le chemin de la croissance économique depuis quelque temps déjà. Donc il y a une relation entre dynamique démographique, dynamique économique, dynamique géopolitique, le vieillissement et la puissance, ça fonctionne pas forcément ensemble.
Et puis aussi sur ce que vient de dire Stephen Smith, et là sur la question donc des réfugiés, puisque Stephen Smith explique le nombre de ces réfugiés. C'est là aussi un phénomène nouveau. On l'a connu en Europe dans l'immédiat après-guerre. Ensuite, il y a eu des périodes où la notion de réfugié était quand même une notion extrêmement localisée. Aujourd'hui, on a des pays tout entiers. Je pense par exemple à l'Érythrée qui est dans une situation donc affreuse. Un pays soumis à une dictature sanglante. Quasiment tous les Érythréens doivent pouvoir être considérés comme étant des réfugiés politiques, puisque dans leur pays, ils ne souffrent que de l'oppression. Ça, c'est quand même une situation nouvelle, Pierre Verluise.
Ce qui est nouveau, c'est la révolution des transports également. La révolution de l'information, l'Internet, la prise de conscience de tous ces problèmes.
Soit, mais l'effondrement politique de ces pays qui sont devenus des dictatures sanglantes, c'est quand même...
La réalité.
Pendant un certain temps, on avait tendance à dire que le monde était sur les chemins de la démocratisation. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire l'inverse.
Oui, bien sûr.
Et ça, en termes de prévision, Stephen Smith.
D'abord, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire qu'il y avait le Congo de Mobutu, qui avait beaucoup plus de population. C'est effroyable ce qui passe en Érythrée. Il faut reconnaître des situations d'urgence. C'en est une. Alors que la plupart des migrants viennent de pays qui sont plutôt des pays de seuil, d'espoir, comme le Nigeria, le Sénégal, le Ghana. Mais l'Érythrée est un cas de dictature. Heureusement, la population de l'Érythrée n'est pas à la hauteur du Congo Kinshasa. Ça, c'est un premier fait. Je voudrais revenir sur la question. Nous avons une sorte de balkanisation de l'esprit. On oublie qu'il y a quand même des gains de longévité. On vivait à 47 ans, l'espérance était de 47 ans en 1900 en Europe. Aujourd'hui, elle a gagné 30 ans. Le problème du Japon et de l'Europe, ce n'est pas tellement que des personnes plus âgées ne puissent pas être productives, c'est qu'on a privatiser la retraite. Les gens partent pendant 30 ans à la retraite et je pense que beaucoup de retraités demanderaient à rester dans la vie active et dans le royaume de la nécessité. Peut-être pas en France, aux États-Unis, oui, où il n'y a pas de l'âge de retraite obligatoire. Le fait est qu'on ne peut pas, au Japon on l'a fait, les privilégiés d'hier, aujourd'hui, vivent une rente situation et la précarisation de la jeunesse, et on a le même phénomène en Europe, et c'est difficile dans une démocratie de poser le problème que, finalement, quand on gagne sur chaque génération 5-6 ans d'espérance de vie, il faut peut-être en donner une partie à la communauté et non pas à la retraite.
Isabelle de Golemin, pour
oui,
la
alors,
Croix.
Une Europe trop vieille, mais une Afrique trop jeune. Et est-ce que donc c'est possible aujourd'hui de jouer sur cette courbe démographique africaine ? On a le sentiment, autant en Asie finalement les pays sont arrivés à maîtriser leur démographie, on a le sentiment qu'en Afrique on se trouve devant quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. On n'en parle pas, on parle de culture, on dit que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ?
Je pense qu'on a une maîtrise, mais c'est quand même des phénomènes qui sont très fondamentaux et donc ça va très lentement. Le Maghreb a déjà quasi achevé sa transition démographique et la pression migratoire est moindre, donc je pense qu'on va y arriver, mais il faut reconnaître que c'est dans des temporalités qui ne sont pas à l'échéance de la prochaine élection, et donc il faut accepter ce réel-là et s'installer dans cette temporalité-là.
Pierre Verluis, justement, en termes donc de prévision démographique, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont des chiffres inquiétants, mais ça n'est pas quelque chose de très nouveau, puisque ça fait des années, finalement, qu'on agite donc cette pression démographique en disant il va y avoir des déséquilibres, il va y avoir une bombe H, ça fait depuis les années 70, et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ?
La planète existe toujours et c'est heureux, ça va durer quelque temps encore. Mais mon propos, c'est de montrer simplement qu'il y a une articulation entre des enjeux démographiques en Europe, le vieillissement, le dépeuplement, ça c'est une réalité de certaines régions, et le fait qu'il y a à proximité des espaces où la population croît plus vite et qu'il y a un jeu de circulation entre tout cela et que la grande question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait.
Mais alors pourquoi agitait-on cette menace dans les années 70 et pourquoi depuis lors il n'y a pas eu effectivement, tant mieux, le cataclysme qu'on évoquait, Pierre Verluis.
Parce qu'il y a eu des capacités d'adaptation, il y a eu des échecs aussi. On peut en trouver pas très loin d'ici, en Seine-Saint-Denis, vous avez des espaces où il y a eu des populations qui sont venues du monde et qui ont été mal intégrées. Ça a produit de la souffrance et des difficultés. Donc, je pense qu'il faut avoir une vision assez large des choses, et j'en viens à mon sujet sur ce trait. Les flux migratoires, et plus précisément les réfugiés de l'année 2015-2016, ont eu des effets politiques, malgré eux, non négligeables en Europe. Le Brexit 2015-2016, c'est indiscutable. L'Allemagne, l'AFD, ça n'est pas négligeable. J'ai cru comprendre qu'au deuxième tour en France, il y avait eu un parti politique qui s'appelle le Front National qui fait de la dénonciation de tout ça. Donc mon sujet est de dire, attention, c'est bien beau de dire les flux migratoires ne sont pas un problème, mais ça produit des effets politiques si on ne les gère pas.
Mais alors, justement, ces flux migratoires que vous évoquez, c'est-à-dire notamment ceux consécutifs à la crise syrienne, Pierre Verluis, ils ne doivent rien à la démographie et doivent tout à la politique. Et c'est justement ça qui est intéressant, puisque ce que disait le Club de Rome dans les années 70, ce qu'ont dit certains démographes, c'était qu'on était menacé par des afflux donc de migrants. Mais ces afflux de migrants, ils ne viennent que du fait de la guerre.
Il faut distinguer dans les migrants au moins plusieurs catégories. Une première catégorie, entre guillemets, avec triple guillemets, ceux qui aspirent au statut de réfugié, c'est une chose, et qui l'obtiennent ou ne l'obtiennent pas. L'immigrant économique, c'est encore autre chose. Et il y a encore bien d'autres catégories. Il y a le regroupement familial, par exemple.
Stephen Smith, une pierre dans votre jardin, puisque vous évoquez dans votre livre la ruée vers l'Europe. Mais cette ruée vers l'Europe, aujourd'hui, elle est malheureusement le fait de populations qui souffrent dans leur pays du fait de la guerre. On a entendu dans le journal, encore une fois, le drame syrien. On pourrait reparler donc de l'Érythrée comme je l'ai fait. Bref, cette situation, finalement, elle n'est pas le fait du Nigeria.
Mais quand même, vous avez la pointe de 2015 avec beaucoup de situations dramatiques, mais vous avez un fonds de migration qui est depuis 10 ans à peu près 200 000, 200, 300 000 subsahariens qui migrent. Et il faut encore que l'Afrique passe un seuil de prospérité pour véritablement déclencher la vague dont je parle, et je le précise. Il faut que cette Afrique qui a une classe moyenne de 150 millions sur 1,3 milliard se développe encore beaucoup. Pour l'instant, je prends l'électricité, l'Afrique au sud du Sahara produit et consomme l'électricité de 20 millions de New-Yorkais. Donc on est loin de ça. Ce que je voudrais dire, le cataclysme annoncé était toujours la peur du nombre, le malthusianisme. Je ne suis pas du tout dans son propos, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Je reprends le parallèle avec le Front National. Aujourd'hui, on parle des migrants et on fait comme s'il y avait encore des sédentaires. Il n'y a plus. Nous sommes tous des migrants. Même si je reste dans mon quartier à Paris, mon quartier change tellement que j'ai migré. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu que véritablement cette révolution se fait dans tous les quartiers, même dans les villes de province, et qu'aujourd'hui cette opposition du Front National qui dit « là, il y a les barbares qui vont venir nous envahir » et les autres qui sont des autochtones en quelque sorte, cette dichotomie a explosé. Nous sommes tous, que nous bougions ou non, dans la situation de migration parce qu'autour de nous, tout change.
Alors, effectivement, tout change, il y a ce bouleversement, il y a malgré tout des mouvements qui ont été moins importants que prévu, parce que on pourrait penser par exemple à des scénarios catastrophes, il y avait un roman de Jean Raspail là-dessus.
Je vais vous donner un exemple positif. Parce que pour une fois, bien sûr que c'est un défi, il y a un coût social, c'est difficile, l'homme universel ne voyage pas, celui qui arrive, il vient avec ses préjugés, il vient avec sa langue et tout ça, je le reconnais. Mais un exemple positif pour respirer, Londres, qui se plaint de Londres? Il y a trois générations, 90% des Londoniens étaient des Britanniques, nés de parents britanniques. Aujourd'hui, la moitié de ceux, la population n'a pas bougé, c'est un peu moins de 9 millions de Londoniens, et aujourd'hui, plus de la moitié sont des immigrés ou des fils et filles d'immigrés. Est-ce que quelqu'un trouve que Londres cosmopolite est une catastrophe? C'est devenu le New York de la Grande-Bretagne. Peut-être les Interland ne s'y retrouvent pas, mais les Américains se plaignent de New York comme étant à la fois la plus belle de leur ville et la moins américaine.
Enfin, Isabelle de Goldman. Les Anglais ont voté le Brexit précisément à cause d'immigration, donc on peut quand même pas dire que tout va pour le meilleur des mondes.
Mais Londres
n'est
pas une catastrophe.
Non, je suis bien d'accord, mais politiquement, le coût a été élevé.
Pierre Verluise.
Bien sûr, madame a raison. Il faut mettre des choses un tout petit peu en perspective pour renforcer le trait. C'est que en 2004, sur les 15, ouvrez les guillemets, anciens États membres, deux seulement n'ont pas fait jouer les clauses dérogatoires concernant les flux de travailleurs possibles des nouveaux États membres. Ces deux pays sont le Royaume-Uni et l'Irlande. Et il y a eu sur le segment 2004, 5, 6, 7, 8, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues de Pologne et des pays baltes qui se sont installées. Tant qu'il y avait de la croissance économique, c'était parfait, entre guillemets. Mais à partir du moment où nos amis américains nous ont offert la crise financière de 2008, alors au Royaume-Uni, ça a produit comme ailleurs des effets et le regard porté sur le migrant a changé. Et c'est une des mille explications du Brexit.
Alors, le regard porté sur le migrant, il y a aussi un lien avec la manière dont on accueille cet individu et sa culture. Vous parliez par exemple, de la donnée religieuse, Stephen Smith, en première partie. Vous avez évoqué le pentecôtisme. Il y a aussi donc la manière dont l'islam est pratiqué dans certains pays d'Afrique. Justement, un point là-dessus.
Je pense que les gens arrivent, et on a souvent l'impression qu'on parle de l'homme universel qui arrive, mais ils arrivent avec leur culture. Il faut donc, par exemple, un certain attachement à la communauté religieuse, aujourd'hui beaucoup plus qu'à la parentèle. Le néo-protestantisme avec cette religion de l'argent, le succès comme étant le signe extérieur du salut, qui vous est conféré par le Seigneur. Tout ça, ce sont des idées qui ne sont pas évidentes et on a beaucoup insisté.
Avec quelles conséquences, justement ?
La religion de l'argent et de la réussite, l'idée que finalement une certaine prédestination s'extériorise dans votre mode de vie, la renonciation à la réciprocité dans les rapports sociaux, c'est entré dans les cités en France avec beaucoup moins d'attention que par exemple l'islamisation sur laquelle on s'est focalisé. C'est Régis Debray avec le néo-protestantisme qui malheureusement il assimile à l'américanisation. Je pense que c'est beaucoup plus une mondialisation qu'une américanisation. Tout ça, ça a des effets. Et il faut les reconnaître. Je voulais juste dire un mot. Et je ne crois pas qu'il faut être absolument moderne. Ce n'est pas parce que les gens sont des perdants de la mondialisation que la mondialisation est mauvaise. Donc la révolte, par exemple, du Brexit, est une révolte du hinterland contre Londres. Est-ce qu'il faut en faire le reproche à Londres ou est-ce qu'il faut dire qu'il faudra peut-être réfléchir sur la perte de la prime, en quelque sorte, impériale des pays comme la France ou la Grande-Bretagne? Si vous étiez né il y a une génération ou deux et vous étiez français, américain ou britannique, vous avez une maison, vous aviez une voiture, vous avez un certain standard. Aujourd'hui, vous le perdez parce que vous êtes en compétition avec le monde entier. Et finalement, cette perte de rente impériale a apporté de l'eau sur le moulin de beaucoup de démagogues.
Pierre Verluise.
Savez-vous quelle est l'incidence démographique du Brexit ? Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 6,9% de la population mondiale. Brexit effectif, c'est-à-dire 2019-2020, c'est seulement 5,9% de la population mondiale.
C'est-à-dire qu'on va perdre 1%.
Voilà. Et si on fait des projections démographiques avec toutes les précautions oratoires nécessaires, en 2050, l'UE, dans sa composition actuelle, moins le Royaume-Uni, c'est 4,5 à 4% de la population mondiale. Donc il va falloir être très très bon. Il va falloir que les personnes vieillies, dont j'espère être à ce moment-là, trouvent des moyens pour survivre. Il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, que leur retraite soit payée. Alors quels sont les États, poursuivre, qui actuellement sortent du solde migratoire l'essentiel de leur croissance démographique? C'est l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, la Slovénie, l'Autriche, les Pays-Bas, Malte, Luxembourg, Danemark, République tchèque et Belgique. Donc oui, la migration joue un rôle central dans le système démographique de l'Union européenne.
Isabelle de Golemin.
Et alors du coup, est-ce qu'il faut réguler cette migration ou pas? Ou est-ce qu'il faut finalement laisser les choses se faire naturellement et on a comme ça un rééquilibrage démographique?
Non, on ne peut pas regarder, je souligne totalement ce chiffre de 5% de la population mondiale. Nous parlons toujours comme si on pouvait développer l'Afrique, comme si on pouvait faire le salut ou le malheur du reste du monde. Il faut devenir un peu moins eurocentrique. Il faut aussi voir que les murs anti-migrants, ça existe entre l'Inde et le Bangladesh, que l'Afrique du Sud a été ruinée économiquement par un influx de migrants. On ne peut plus agir comme si l'Europe était au cœur du monde. Ça entraîne certaines responsabilités. On ne peut pas dire l'Afrique est jeune, l'Europe est vieille. Ça, la péréquation va se faire. Et elle va se faire à ce moment-là, ça sera une Europe africaine. Je dis ça calmement puisque pendant assez longtemps, avec beaucoup d'arrogance, on a aussi parlé de l'Afrique française. Et on ne s'est pas posé des questions puisque la France décidait en gros ce qui se passait en Afrique francophone. Mais c'est des choix politiques à faire et je suis d'accord que ces choix doivent être faits, ça a été dit d'entrée de débat, doivent se faire par les nationaux, ça n'est pas une catégorie ethnique. Chacun qui a une nationalité décide qui entre chez lui et à quelle hauteur.
Un dernier mot, Pierre Verluise.
Je partage l'idée que c'est tellement facile d'être généreux, naïf. En réalité, il faut être conscient aussi des effets politiques qui sont produits derrière.
l'entrée de l'AFD au Parlement en Allemagne, ça n'est pas négligeable. 5 mois sans véritable accord de coalition en Allemagne, ça n'est pas négligeable. Et il y a une relation entre crise migratoire, AFD et absence de coalition. Notamment pour la France, qui espérait faire avec l'Allemagne de Mme Merkel une relance de la construction européenne. Donc un des effets de tout ça, c'est le fait que pour l'instant, ça n'avance pas.
Ça n'avance pas et effectivement, on va rester sur ce constat. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. C'est aux éditions Grasset. La journée se poursuit sur France Culture. Pensez l'immigration en partenariat avec La Croix.